France Culture, les matins d'été, Chloé Cambrelin.
Plus de 100 morts, des milliers de blessés, dit ce matin la Croix-Rouge libanaise, et le bilan, on le sait, va encore s'alourdir après les deux explosions qui ont ravagé Beyrouth hier en fin de journée. Nous sommes en ligne avec Sarr Al-Attar. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes rédactrice en chef du Commerce du Levant, magazine économique francophone libanais, et vous êtes à Beyrouth. Merci de prendre quelques minutes pour nous. On voit ici les images terribles depuis hier de votre ville dévastée. Comment ça se passe ce matin? Est-il seulement possible de mesurer l'étendue des dégâts?
Non, il est, enfin, visuellement, on voit, c'est un, enfin, l'Orient, ce matin, à la une disait, oui, que c'était l'apocalypse. C'est un peu ça, quoi. C'est l'apocalypse. Il y a des débris partout, les maisons sont détruites. Enfin, il y a des gens qui rappellent, c'était Beyrouth des années 80. Enfin, c'est des images des scènes de guerre, quoi. C'est juste terrible. C'est une tragédie, ce qui est en train de se passer. Vous l'avez dit, il y a un bilan humain qui est très lourd. Il y a 100 morts ce matin, 4000 blessés, des dizaines de disparus encore. Donc on peut s'attendre à ce que le bilan s'alourdisse. Et puis des dégâts matériels énormes. Et une catastrophe qui s'ajoute à un contexte déjà très difficile pour le Liban. On a déjà la crise sanitaire et on a une crise économique et financière aiguë. Donc tout ça rend très compliqué le lendemain, quoi. On a du mal à se projeter, on a du mal à savoir comment. Donc évidemment, l'urgence pour le moment, c'est la situation médicale, sanitaire. Et là aussi, c'est assez catastrophique. Il y a deux des grands hôpitaux de Beyrouth qui ont été très fortement endommagés. Donc ils n'arrivent plus à accueillir des malades, les hôpitaux sont surchargés. Et là, on attend des hôpitaux de campagne qui ont été envoyés par les pays voisins.
Sarr Al-Attar, on sait que les autorités disent donc que ce sont 2750 tonnes de nitrate d'ammonium stockées dans un entrepôt du port qui serait à l'origine de ces explosions. Comment s'explique-t-on la présence en ces quantités de ce nitrate d'ammonium, dont on rappelle que c'est une substance qui entre dans la composition de certains engrais, mais aussi d'explosifs, et qui a déjà causé des accidents industriels chez nous, la catastrophe de l'usine AZF de Toulouse en 2001. Comment s'explique-t-on la présence de ce nitrate d'ammonium dans le port de Beyrouth en si grande quantité?
Alors, il s'agirait d'une cargaison, d'un navire, en fait, qui transportait cette cargaison vers l'Afrique pour le Mozambique et qui a eu un problème technique en cours de route. Donc, il s'est arrêté au port de Beyrouth et il a été vidé. Les propriétaires du navire ne voulaient plus récupérer le navire. On a saisi la cargaison, on l'a stockée au port de Beyrouth en attendant de voir ce qu'on en ferait. Alors, ce qui est fou dans cette affaire, c'est que ça remonte à 2014. Donc, ça fait 6 ans que ces matières hautement explosives sont stockées au port de Beyrouth. Et apparemment, il y aurait eu l'alerte. Alors, on n'a pas beaucoup d'informations encore, mais on aurait sonné l'alerte sur l'état du dépôt ou de l'entrepôt où étaient stockées ces matières. Et justement, on aurait voulu faire des améliorations. On aurait voulu souder la porte ou améliorer un peu la maintenance de ce dépôt. Et c'est ce qui aurait provoqué l'étincelle hier soir. Mais évidemment, la question que tout le monde se pose, c'est ce qui est terrible, en fait. C'est parce que dans le contexte dans lequel on vit, on aurait pu s'attendre à n'importe quoi. Je veux dire, la situation est très tendue au Liban entre le verdict du tribunal international dans l'assassinat de l'ancien premier ministre Saïd Hariri, qui doit être rendu dans 2 jours et dans lequel sont impliqués 4 membres du Hezbollah, les tensions avec Israël qui sont remontées ces 2 derniers jours. Donc quand on a entendu d'une explosion à Beyrouth, on a pensé à tout, à un attentat, à une attaque israélienne, à tout, sauf à une simple négligence. Et c'est ça qui est terrible, c'est qu'aujourd'hui on nous explique que c'est une simple négligence de l'État libanais, c'est un accident, et un accident aux conséquences terribles pour le pays dans une situation qui est très compliquée. Aujourd'hui, le port est complètement détruit. Donc ça pose forcément les questions de tous les stocks qui étaient tous les produits stockés à Beyrouth qui ont pris feu. On a un problème de blé, il y avait des silos de blé qui étaient stockés là-bas. Donc on doit importer de la farine, on a des stocks de médicaments qui sont partis en fumée, on a le port qui n'est plus opérationnel. Alors évidemment, on pense maintenant à utiliser le port de Tripoli, la deuxième ville du pays. Oui. Il est beaucoup plus petit, quelle capacité il a. Et tout ça, évidemment, dans un contexte de crise financière aiguë, où de toute façon, on n'avait déjà plus les moyens d'importer quoi que ce soit. Le Liban est étranglé économiquement.
Oui, ce qu'on lit déjà du Liban, et on en avait parlé ici même dans les matins d'été le 9 juillet, ce sont des coupures d'électricité, ce sont des frigos vides, ce sont des licenciements massifs, une crise effectivement économique, financière avec un pays en défaut de paiement, une crise sociale, une crise politique. Là-dessus, justement, sur l'aspect économique, vous nous dites que le port aujourd'hui est hors d'usage. Qu'en est-il de l'aéroport qui est à quelques kilomètres, je crois? Est-ce que l'aéroport est opérationnel encore?
Pour l'instant, oui. On n'a pas encore eu d'informations à ce niveau précis, mais il semble que l'aéroport a été relativement épargné pour le moment. Mais de toute façon, oui, on peut faire un pont aérien, mais je veux dire, on parle déjà du stock existant qui a pris feu et puis de la capacité à s'organiser. Donc évidemment, il va y avoir besoin d'une aide humanitaire massive. Et puis, il y a tous ces gens qui errent dans la rue, les gens qui ont perdu leur maison, tous les vitres ont été soufflées à plus de 20 km à la ronde. Et comment on fait? Alors, hier, le Conseil supérieur de la Défense a préconisé, a appelé le gouvernement à déclarer l'état d'urgence dans Beyrouth et à importer d'urgence du verre, en fait, parce qu'on est un pays qui importe tout. Donc, quelle capacité aujourd'hui pour ces gens-là à pouvoir reconstruire dans l'urgence? Avec quels moyens financiers, comment? Alors heureusement, on est encore une société solidaire, donc il y a quand même des relais de solidarité qui se sont faits. Les gens prennent les habitants chez eux, les écoles vont être réouvertes pour accueillir les gens sans domicile. Mais la situation ne peut que s'aggraver dans les jours à venir. Alors maintenant, on se réveille, c'est le choc. Hier, on était encore dans le choc, mais les jours à venir seront encore peut-être aussi, voire plus terrible.
Cette crise que vous connaissez au Liban, elle est aussi politique. Justement, le pouvoir en place, notamment le Premier ministre Hassan Diab, est-il en mesure de gérer une telle situation? Hier, il a dit que les responsables de la catastrophe devraient rendre des comptes, mais lui-même est contesté, sérieusement contesté.
Oui, alors évidemment, on ne peut pas dire qu'il s'est illustré par sa gestion de la crise financière ni la crise politique. Alors évidemment, on fait du surplace depuis des mois. Le système est complètement grippé, hein. C'est une crise du système politique. Alors après, on peut espérer un sursaut de la classe politique, une solidarité face à l'adversité, face à la crise. On peut s'attendre à ce que dans les jours qui viennent, il y ait quand même des relais qui se mettent en place. Mais fondamentalement, et cette crise montre, c'est que ce pouvoir est incompétent et incapable. Et l'État cet accident, cette négligence qui est terrible, qui a un coût humain terrible, montre une nouvelle fois l'état de déliquescence de l'État libanais. Et c'est ça qui est très triste.
Et il me semble aussi qu'avec les problèmes des frontières et la crise économique actuelle, donc déjà qui date de plusieurs mois au Liban, le port précisément était peut-être la dernière zone d'échange, la dernière zone d'activité économique. Or ça, là, ça ne va plus exister. Comment vous travaillez dans un magazine économique justement? Comment est-ce que qu'est-ce qui peut se passer? Quelle est l'urgence? Qu'est-ce qu'il faudrait faire le plus vite possible? C'est acheminer effectivement sans doute de l'aide internationale. Encore faut-il qu'elle puisse arriver. Puisque tous les pays proposent leur aide, quelle est l'urgence aujourd'hui d'après vous?
À mon avis, on doit faire des ponts aériens pour acheminer de l'aide, des médicaments, de la farine, des produits de base. Parce qu'évidemment, les gens ont eu peur hier, on ne trouvait plus du pain dans aucun supermarché, parce que les gens s'inquiètent pour les jours à venir. Le gouvernement a promis qu'il allait importer du blé, de la farine, je veux dire. Quelle sera sa capacité à importer, dans quelle mesure? Mais en attendant, on peut s'attendre, oui, à ce qu'il y ait des pénuries, parce que les gens vont courir, les autres gens, parce qu'il y a les gens à Beyrouth, leur priorité est d'aller ramasser les débris dans leur maison et trouver un lieu où dormir. Mais il y a aussi la peur de manquer de tout. Parce que le poumon, vous l'avez dit, le port de Beyrouth, c'est le poumon économique du Liban. C'est par là où transite l'essentiel des marchandises. Alors après, on a des frontières terrestres avec la Syrie, on pourrait acheminer, mais c'est une logistique immense au vu des dégâts et des besoins. Il faudrait déjà que le gouvernement commence par faire une évaluation de tous les stocks qui ont pris feu. Et on peut imaginer que c'est toutes les réserves qu'on avait pour les 3 prochains mois qui ont brûlé. Donc il va falloir être très rapide, très réactif et voir comment, et encore une fois, dans un État institutionnellement très faible et qui s'illustre par son incompétence. Donc il va falloir voir comment, s'ils vont faire des miracles, ce qui, à mon avis, va être... Enfin, à ce stade, on ne peut plus qu'espérer, quoi.
Et soigner ceux qui ont besoin de l'être, en sachant, vous en avez parlé un petit peu au début, que les hôpitaux étaient déjà très sollicités par la crise sanitaire.
Alors évidemment, et les hôpitaux, encore je vous dis, il y a 2 hôpitaux qui sont lourdement endommagés, deux grands hôpitaux de Beyrouth. Donc ce qui reste, essaye de faire, mais hier même les hôpitaux en dehors de Beyrouth étaient saturés. On n'accueillait plus de blessés. On disait aux gens, les gens qui ont juste des points de suture à faire, qu'ils restent chez eux, parce que on n'arrive plus à... Et puis évidemment, alors maintenant il y a des hôpitaux de campagne qui devrait arriver dans la journée avec 500 lits, mais encore une fois, il ne faut pas oublier la crise sanitaire, c'est-à-dire qu'on est en plein Covid, le Liban avait plus ou moins bien géré au départ, mais là, on avait une remontée des cas spectaculaire, on s'apprêtait à reconfiner le pays, et aujourd'hui, dans cette panique où les il fallait voir les scènes hier dans les hôpitaux, c'était complètement, c'était le chaos. C'est une crise sanitaire qui s'ajoute à la crise sanitaire qui est le Covid. Donc, c'est franchement assez sombre ce qu'on peut imaginer comment les jours vont se dérouler. Mais on peut, on espère quand même une aide humanitaire massive, une aide internationale massive. Et bon, tous les pays de tous les bords ont fait part de leur disposition à aider le Liban. Mais là, les besoins sont immenses.
Et du côté de l'Élysée, ce matin, donc la France va envoyer dès aujourd'hui 2 avions militaires avec un détachement de la sécurité civile de 55 personnes, 15 tonnes de matériel, 6 tonnes de matériel sanitaire. Merci beaucoup. Merci Sahar Alattar, rédactrice en chef du Commerce du Levant à Beyrouth. Merci d'avoir pris quelques minutes avec nous pour évoquer ce matin la situation dans la ville où vous vivez, où vous travaillez, Beyrouth. Merci beaucoup. Merci.